VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 15h à Bujumbura, 9h à Washington. Bonsoir, bienvenue. L'ambassade des États-Unis à Bujumbura confinée cet après-midi après l'intrusion de quelques 200 étudiants venus y chercher refuge. Les étudiants campaient depuis la fin du mois d'avril devant l'ambassade dont ils demandaient la protection après avoir été chassés de leur campus au début des manifestations contre le président Pierre Nkurunziza. L'incident dans l'ambassade américaine intervient à 4 jours seulement des élections législative et communale burundaise prévue lundi avant la présidentielle du 15 juillet et dont la tenue est contestée par l'opposition. Pendant ce temps, le ministre burundais des Affaires étrangères Alain-Aimé Niamutué séjourne en ce moment à Washington au micro de Bagasikura. Le chef de la diplomatie burundaise explique pourquoi Bujumbura maintient le calendrier des élections au Burundi en dépit des protestations de l'opposition et des efforts de l'Union européenne et d'autres acteurs de la communauté internationale pour un changement du chronogramme électoral. M. Niamitwe prend à témoin la communauté d'Afrique de l'Est.
Ce qui est certain, c'est que la disposition du gouvernement était effectivement de discuter de toutes ces questions, y compris le calendrier, sans pour autant mettre en cause la vie des institutions. Comme vous le savez, les conseils communaux terminent leur mandat le 7 juillet. Et si on va au-delà de cette date, nous tombons dans un vide constitutionnel par rapport à ces organes-là. Alors qu'ils sont des organes importants, qui sont les seuls habilités même à pouvoir au poste de sénateur. Or, la communauté est-africaine avait dans sa déclaration du 31 mai demandé qu'on repousse les élections d'un mois et demi au moins. Ça, c'était pris en considération. Mais elle bâtissait sa déclaration sur celle qu'elle avait émise le 13 mai, dans laquelle elle demandait au gouvernement de repousser les élections, mais pas au-delà des délais constitutionnels.
Le ministre burundais des Affaires étrangères Alain-Aimé Niamitwe. Le Burundi, toujours le deuxième vice-président du pays, est parti à l'étranger et dénonce la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un nouveau mandat. Gervais Rufukiri, qui serait maintenant en Belgique, a déclaré à France 24 être contre ce qu'il a qualifié de troisième mandat illégal. Le premier vice-président Prosper Bazombanza reste, lui, au Burundi, selon Edouard Rouema, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique sur place.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le président rwandais Paul Kagame a condamné ce jeudi l'arrogance et le mépris de l'Occident après l'arrestation à Londres de son chef des services de renseignement, Emmanuel Karenzi Karake. Le chef des services de renseignement du Rwanda comparaît aujourd'hui à nouveau devant un tribunal londonien. Le général Emmanuel Karenzi Karake est détenu dans la capitale britannique à la demande d'un juge espagnol, Michel Joseph.
Selon une source judiciaire espagnole que cite l'AFP, le mandat d'arrêt visant le général Karake avait été délivré en 2008 et maintenant, après sa capture, l'ordre de détention et de remise, traduit à l'anglais, a été transmis au Royaume-Uni. Le général Emmanuel Karenzi Karake sera informé aujourd'hui de la requête espagnole avec la possibilité de contester la validité de la procédure engagée contre lui. Âgé de 54 ans, il avait été arrêté samedi à l'aéroport Heathrow de Londres. Le général Karake fait partie de 40 personnalités rwandaises visées par une enquête espagnole sur des faits de terrorisme, une affaire liée à la mort de 9 ressortissants espagnols tués au Rwanda, apparemment pour avoir aidé des réfugiés Hutus.
République démocratique du Congo, le troisième programme de désarmement, démobilisation et réinsertion lancé à la fin de l'année 2013, piétine faute de fonds nécessaires, d'où l'appel du chef de la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays, exhortant Kinshasa et ses partenaires internationaux à honorer leurs obligations. Lionel Gaïma.
Devant la presse ce mercredi, Martin Kobler a été catégorique. Sans argent, on ne peut pas agir, a-t-il déclaré. Alors que le DDR3 doit coûter environ 85 millions de dollars, d'après le gouvernement de la RDC, moins de 10% de ces fonds sont actuellement disponibles. Kinshasa s'était engagé à offrir 40 millions sur 4 ans, mais sa contribution pour l'exercice en cours ne dépasse pas 1,5 million de dollars. L'ONU a versé ses 6 millions pour la même période, mais tel n'a pas été le cas pour les autres partenaires, comme l'Union européenne et les États-Unis, souligne l'AFP. Selon le chef de la MONUSCO, la réticence de la communauté internationale s'expliquerait par le manque de contribution du gouvernement du président Joseph Kabila.
Au Niger, l'armée affirme avoir tué une quinzaine de miliciens de Boko Haram au cours d'opérations terrestres et aériennes contre des positions du groupe armé Nigérien, Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué diffusé par la radio d'État mercredi soir, le ministère nigérien de la Défense indique que 15 miliciens sont morts et qu'une vingtaine d'autres ont été faits prisonniers. Un véhicule blindé a été détruit, 26 motos saisies, ainsi que des vivres et du carburant. Le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Mustapha Ledru, qui a lu le communiqué, n'a pas précisé le site de l'opération, mais Boko Haram reste actif dans le sud-est du Niger, près du lac Tchad et des frontières avec le Nigeria et le Tchad. On ignore également si l'armée tchadienne a participé à ces opérations régionales pour éradiquer Boko Haram. Le 18 juin, Boko Haram a mené une attaque sanglante contre deux villages du sud-est nigérien, frontaliers avec le Nigeria. 38 civils, dont 14 hommes, 14 femmes et 10 enfants, ont été massacrés. Les États-Unis ont condamné l'attaque et ont rappelé leur engagement à œuvrer avec les gouvernements de la région pour éradiquer la menace posée par Boko Haram.
Au Mali, séminaire de 3 jours à Bamako sur l'insécurité transfrontalière à l'intention des parlementaires maliens, nigériens et burkinabés. Une initiative du NDI, l'Institut démocratique national des États-Unis. Un extrait des activités à la réunion avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
La députée de Tombouctou qui participe à cette rencontre pense qu'il faut une synergie d'action sous-régionale pour venir à bout de l'insécurité dans le Sahel. Honorable Maïga Aziza Mint Mohamed.
Eh bien, c'est tout le Sahel aujourd'hui qui est en danger. Le Sahel est infesté par la prolifération des armes, infesté par le trafic de drogue, infesté par le trafic de personnes et de biens. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui retrouvés en salle, le Niger, le Burkina, le Mali, pour échanger, trouver des solutions adéquates pour lutter contre ce banditisme.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
15h07 à Pretoria, en Afrique du Sud.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
L'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale suite à la controverse au sujet de son refus d'arrêter le président soudanais Omar al-Béchir, recherché pour génocide par la CPI pendant son séjour à Johannesburg pour participer au 25e sommet de l'Union africaine. Mais un porte-parole gouvernemental sud-africain souligne qu'un retrait de la Cour pénale serait la dernière option considérée après examen par Pretoria des statuts de Rome qui ont mis en place le tribunal. Et le président sud-africain Jacob Zuma va s'adresser à la nation ce jeudi soir et rendre public le rapport d'enquête sur la tuerie de Marikana où 34 mineurs en grève ont trouvé la mort sous des balles de la police. C'était le 16 août 2012, a annoncé la présidence. Ces conclusions sont attendues depuis presque 3 ans, durant lesquels la commission d'enquête a entendu des dizaines de témoins avant de rédiger un rapport qui a été remis le 31 mars au chef de l'État, Jacob Zuma. Depuis le massacre, aucun haut responsable gouvernemental ou de la police n'a été sanctionné ni déplacé en rapport avec ces événements. La tuerie de la mine de platine de Marikana, qui avait provoqué un choc énorme dans le pays, avait fait au total 44 morts avant le massacre du 16 août. 10 personnes, dont des policiers, avaient en effet été tuées à la machette sur fond de rivalité entre syndicats de mineurs. La guerre contre le groupe État islamique maintenant. En Syrie, nouvelle offensive des djihadistes de l'organisation contre la ville de Kobané, un bastion des forces kurdes à la frontière avec la Turquie. L'attaque a commencé avec un attentat suicide tôt ce matin près d'un poste frontalier qui aurait fait des dizaines de morts et de blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Rappelons que les forces kurdes, soutenues par l'aviation de la coalition menée par les États-Unis, ont pris Kobané en janvier dernier après des mois de combats contre les djihadistes, une victoire symbolique dans la lutte contre le groupe terroriste. Et puis pour finir, une roquette tirée depuis la Syrie s'est abattue aujourd'hui sur le nord de la Jordanie, faisant un mort et 4 blessés, d'après des sources gouvernementales. Al-Ramta, la ville dans laquelle a été tirée cette roquette, est située seulement à quelques kilomètres de la ville de Dera, dans le sud de la Syrie, théâtre de combat entre une coalition de rebelles et les forces du régime syrien. Cette coalition de rebelles, dont font partie les djihadistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda, y a bombardé des positions loyalistes avec des obus de mortier et des tirs d'artillerie, selon l'Observatoire syrien des droits humains. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans environ 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.